Jean-Christophe, tome 4, La révolte. Chapitre 1er. Sable mouvant. Libre, libre des autres et de soi. Le réseau de passion qui le liait depuis un an venait brusquement de se rompre. Comment? Il n'en savait rien. Les mailles avaient cédé à la poussée de son être. C'était une de ces crises de croissance où les natures robustes déchirent violemment l'enveloppe morte d'hier, l'âme ancienne où elles étouffent. Christophe respirait à plein poumon sans bien comprendre ce qui était arrivé. Un tourbillon de bises glacées s'engouffrait sous la grande porte de la ville quand il rentra, venant d'accompagner Gottfried. Les gens baissaient la tête contre l'ouragan. Les filles allant à l'ouvrage luttaient avec dépit contre le vent qui se jetait dans leurs jupes. Elles s'arrêtaient pour souffler, le nez et les joues rouges, l'air rageur. Elles avaient envie de pleurer. Christophe riait de joie. Il ne pensait pas à la tourmente. Il pensait à l'autre tourmente dont il venait de sortir. Il regardait le ciel d'hiver, la ville enveloppée de neige, les gens qui passaient en luttant. Il regardait autour de lui, en lui. Rien ne le liait plus à rien. Il était seul, seul. Quel bonheur d'être seul, d'être à soi. Quel bonheur d'avoir échappé à ses chaînes, à la torture de ses souvenirs, à l'hallucination des figures aimées et détestées. Quel bonheur de vivre enfin, sans être la proie de la vie, d'être devenu son maître. Il rentra dans sa maison, blanc de neige. Il se secoua gaiement comme un chien. En passant près de sa mère, qui balayait le corridor, il l'enleva de terre avec des cris inarticulés et affectueux, comme on en dit aux petits-enfants. La vieille Louisa se débattait dans les bras de son fils, mouillée de neige qui fondait. Et elle l'appela « gros bête », en riant d'un bon rire enfantin. Il monta dans sa chambre 4 à 4. Il pouvait à peine se voir dans sa petite glace, tant le jour était sombre. Mais son cœur jubilait. Sa chambre étroite et basse, où il avait peine à remuer, lui semblait un royaume. Il ferma la porte à clef et rit de contentement. Enfin, il allait se retrouver. Depuis combien de temps s'était-il perdu? Il avait hâte de se plonger dans sa pensée. Elle lui apparaissait comme un grand lac qui se fondait au loin dans la brume dorée. Après une nuit de fièvre, il se tenait au bord, les jambes baignées par la fraîcheur de l'eau, le corps caressé par la brise d'un matin d'été. Il se jeta à la nage. Il ne savait où il allait et peu lui importait. C'était la joie de nager au hasard. Il se taisait, riant, écoutant les mille bruits de son âme. Elle fourmillait d'être. Il n'y distinguait rien. La tête lui tournait. Il n'éprouvait qu'un bonheur éblouissant. Il jouit de sentir ses forces inconnues, et remettant paresseusement à plus tard de faire l'essai de son pouvoir, il s'engourdit dans l'orgueilleuse ivresse de cette floraison intérieure qui, supprimée depuis des mois, éclatait comme un printemps soudain. Sa mère l'appelait à déjeuner. Il descendit la tête étourdie, ainsi qu'après une journée au grand air. Une telle joie rayonnait en lui que Louisa lui demanda ce qu'il avait. Il ne répondit pas. Il la prit par la taille et la força à faire un tour de danse autour de la table où la soupière fumait. Louisa, essoufflée, cria qu'il était fou, puis elle frappa des mains. « Mon Dieu !» fit-elle inquiète. « Je parie qu'il est de nouveau amoureux. » Christophe éclata de rire. Il lança sa serviette en l'air. « Amoureux ? » s'écria-t-il. « Ah, bon Dieu ! Non, non, c'est assez. Tu peux être tranquille. C'est fini, fini pour toute la vie, fini. Ouf !» Il but un grand verre d'eau. Louisa le regardait rassurée, hochait la tête, souriait. « Beau serment d'ivrogne, dit-elle. Il y en a pour jusqu'au soir. »« C'est toujours cela de gagner, répondit-il de bonne humeur. »« Bien sûr, fit-elle. Alors, qu'est-ce que tu as qui te rend si content ?»« Je suis content, voilà. » Les coudes sur la table, assis en face d'elle, il voulut lui conter tout ce qu'il ferait plus tard. Elle l'écoutait avec un affectueux scepticisme, et lui faisait remarquer doucement que la soupe refroidissait. Il savait qu'elle n'entendait pas ce qu'il disait, mais il n'en avait cure. C'était pour lui-même qu'il parlait. Il se regardait en souriant, lui parlant, elle n'écoutant guère. Bien qu'elle fût fière de son fils, elle n'attachait pas grande importance à ses projets artistiques. Elle pensait, il est heureux, c'est l'essentiel. Tout en se grisant de ses discours, il regardait la chère figure de sa mère, avec son fichu noir sévèrement serré autour de la tête, ses cheveux blancs, ses yeux jeunes qui le couvaient d'amour, son beau calme indulgent. Il lisait toutes ses pensées en elle. Il lui dit, en plaisantant, « Cela t'est bien égal, hein, tout ce que je te raconte. » Elle protesta faiblement. « mais non !» Il l'embrassa. « mais si, va, ne t'en défends pas. » « Tu as raison. Aime-moi seulement. Je n'ai pas besoin qu'on me comprenne, ni toi, ni personne. Je n'ai plus besoin de personne, ni de rien maintenant. J'ai tout en moi. » « Allons, fit Louisa, le voilà avec une autre folie à présent. Enfin, puisqu'il lui en faut une, j'aime encore mieux celle-là. » Bonheur délicieux de se laisser flotter sur le lac de sa pensée. Couché au fond d'une barque, le corps baigné de soleil, le visage baisé par le petit air frais qui court à la surface de l'eau, il s'endort, suspendu sur le ciel. Sous son corps étendu, sous la barque balancée, il sent l'onde profonde. Sa main nonchalamment y plonge. Il se soulève, et le menton appuyé sur le rebord du bateau, comme quand il était enfant, il regarde passer l'eau. Il voit des miroitements d'êtres étranges, qui filent comme des éclairs. D'autres encore. Jamais ils ne sont les mêmes. Il rit au spectacle fantastique qui se déroule en lui. Il rit à sa pensée. Il n'a pas le besoin de la fixer. Choisir. Pourquoi choisir dans ces milliers de rêves? Il a bien le temps. Plus tard, quand il voudra, il n'aura qu'à jeter ses filets pour retirer les monstres qu'il voit luire dans l'eau. Il les laisse passer. Plus tard. La barque flotte au gré du vent tiède et du courant insensible. Il fait doux, soleil et silence. Languissamment, enfin, il laisse tomber les filets. Penché sur l'eau qui grésille, il les suit du regard jusqu'à ce qu'ils aient disparu. Après quelques minutes de torpeur, il les ramène sans hâte. À mesure qu'il les tire, ils deviennent plus lourds. Au moment de les sortir, il s'arrête pour prendre haleine. Il sait qu'il tient sa proie, il ne sait pas quelle est sa proie. Il prolonge le plaisir de l'attente. Enfin, il se décide. Les poissons aux cuirasses irisées apparaissent hors de l'eau. Ils se tordent comme un nid de serpent. Il les regarde curieusement, il les remue du doigt. Il veut prendre les plus beaux, un instant, dans sa main. Mais à peine les a-t-il sortis de l'eau que leurs nuances pâlissent. Ils se fondent entre ses doigts. Il les rejette dans l'eau et recommence à pêcher. Il est plus avide de voir, l'un après l'autre, tous les rêves qui s'agitent en lui que d'en garder aucun. Il lui semble plus beau quand il flotte librement dans le lac transparent. Il en pêchait de toutes sortes, tous plus extravagants les uns que les autres. Depuis des mois que les idées s'amassaient, sans qu'il en tirât parti, il crevait de richesse à dépenser. Mais tout était pêle-mêle. Sa pensée était un capharnaüm, un bric-à-brac de juifs, où étaient empilés dans la même chambre des objets rares, des étoffes précieuses, des ferrailles, des guenilles. Il ne savait pas distinguer ce qui avait le plus de prix. Tout l'amusait également. C'étaient des frôlements d'accords, des couleurs qui sonnaient comme des cloches, des harmonies qui bourdonnaient comme des abeilles, des mélodies souriantes, comme des lèvres amoureuses. C'étaient des visions de paysages, des figures, des passions, des âmes, des caractères, des idées littéraires, des idées métaphysiques. C'étaient de grands projets, énormes et impossibles. Des tétralogies, des décalogies, enfin la prétention de tout peindre en musique, et embrassant des mondes. Et c'était, le plus souvent, des sensations obscures et fulgurantes, évoquées subitement par rien, un son de voix, une personne qui passait dans la rue, le clapotement de la pluie, un rythme intérieur. Beaucoup de ces projets n'avaient d'autre existence que le titre. La plupart se réduisaient à un ou deux traits, pas plus. C'était assez. Comme les très jeunes gens, ils croyaient avoir créé ce qu'ils rêvaient de créer. Mais il était trop vivant pour se satisfaire longtemps de ses fumées. Il se lassa d'une possession illusoire, il voulut saisir ses rêves. par lequel commencer. Ils lui paraissaient tous aussi importants l'un que l'autre. Il les tournait et les retournait. Il les rejetait, il les reprenait. Non, il ne les reprenait plus, ce n'étaient plus les mêmes. Il ne se laissait pas attraper deux fois. Constamment, il changeait. Il changeait dans ses mains, sous ses yeux, tandis qu'il les regardait. Il fallait se hâter, et il ne le pouvait point. Il était confondu par sa lenteur au travail. Il eût voulu tout faire en un jour, et il avait une difficulté terrible à exécuter le moindre ouvrage. Le pire était qu'il s'en dégoûtait quand il était encore au commencement. Ses rêves passaient, et il passait lui-même. Tandis qu'il faisait une chose, il regrettait de n'en pas faire une autre. Il semblait qu'il lui suffît d'avoir fait choix d'un de ses beaux sujets pour que le beau sujet ne l'intéressât plus. Ainsi, toutes ses richesses lui étaient inutiles. Ses pensées n'étaient vivantes qu'à la condition qu'il n'y touchât point. Tout ce qu'il réussissait à atteindre était déjà mort. Le supplice de Tantale, à portée de sa main des fruits qui devenaient pierres aussitôt qu'il les prenait. Près de ses lèvres, une eau fraîche qui fuyait quand il se baissait vers elle. Pour apaiser sa soif, il voulut se désaltérer aux sources qu'il avait conquises, à ses œuvres anciennes. La dégoûtante boisson. À la première gorgée, il la recracha en jurant. Quoi, cette eau tiède, cette musique insipide, c'était là sa musique? Il relut la suite de ses compositions. Cette lecture l'atterra. Il n'y comprenait plus rien. Il ne comprenait même plus comment il avait pu les écrire. Il rougissait. Une fois, il lui arriva, après une page plus niaise que les autres, de se retourner pour voir s'il n'y avait personne dans la chambre, et d'aller se cacher la figure dans son oreiller comme un enfant qui a honte. D'autres fois, le ridicule de ses œuvres lui semblait si bouffon qu'il oubliait qu'elles étaient de lui. « Ah, l'idiot ! » cria-t-il en se tordant de rire. Mais rien ne l'affectait plus que les compositions où il avait prétendu exprimer des sentiments passionnés, chagrin ou joie d'amour. Il bondissait sur sa chaise à coups de poing et se frappait la tête en hurlant de colère. Il s'apostrophait grossièrement, il se traitait de cochon, de triple gueux, de foutu bête et de paillasse. Il en avait pour quelque temps à égrener son chapelet. À la fin, il allait se planter devant sa glace, tout rouge d'avoir crié. Il s'empoignait le menton et il disait « Regarde, regarde, crétin, ta gueule d'âne. Je t'apprendrai à mentir, chenapan. Allô, monsieur, allô !» Il s'enfonçait la figure dans sa cuvette et il la maintenant sous l'eau jusqu'à ce qu'il étouffât. Quand il sortait de là, écarlate, les yeux hors de la tête et soufflant comme un phoque, il allait précipitamment à sa table sans prendre la peine d'éponger l'eau qui ruisselait autour de lui. Il saisissait les compositions maudites et il les déchirait avec rage en grognant. « Tiens, canaille, tiens, tiens, tiens !» Alors il était soulagé. Ce qui l'exaspérait surtout dans ses œuvres, c'était leur mensonge. Rien de senti. Une phraséologie apprise par cœur, une rhétorique d'écolier. Il parlait de l'amour comme un aveugle des couleurs. Il en parlait par oui-dire, en répétant les niaiseries courantes. Et non seulement l'amour, mais toutes les passions lui avaient servi de thème à des déclamations. Pourtant, il s'était toujours efforcé d'être sincère. Mais il ne suffit pas de vouloir être sincère. Il faut pouvoir l'être. Et comment le serait-on quand on ne connaît encore rien de la vie? Ce qui venait de lui dévoiler la fausseté de ses œuvres, ce qui avait creusé brusquement un fossé entre lui et son passé, c'était l'épreuve des 6 derniers mois. Il était sorti des fantômes. Il possédait maintenant une mesure réelle à laquelle il pouvait rapporter ses pensées pour en juger le degré de vérité ou de mensonge. Le dégoût que lui inspirèrent ses compositions anciennes, produites sans passion, fit qu'avec son exagération coutumière, il décida de ne plus rien écrire, qu'il ne fut contraint d'écrire par une nécessité passionnée. Et laissant là sa poursuite aux idées, il jura de renoncer pour toujours à la musique si la création ne s'imposait à coups de tonnerre. Il parlait ainsi parce qu'il savait bien que l'orage venait. Le tonnerre tombe où il veut et quand il veut. Mais les sommets l'attirent. Certains lieux, certaines âmes sont des nids d'orage. Il les crée ou les aspire de tous les points de l'horizon. Et de même que certains mois de l'année, certains âges de la vie sont si saturés d'électricité que les coups de foudre s'y produisent, sinon à volonté, du moins à l'heure attendue. L'être tout entier se tend. Pendant des jours, l'orage se prépare. Une ouate brûlante tapisse le ciel blanc. Pas un souffle. L'air immobile fermente semble bouillir. La terre se tait, écrasée de torpeur. Le cerveau bourdonne de fièvre. Toute la nature attend l'explosion de la force qui s'amasse, le choc du marteau qui se lève pesamment pour retomber d'un coup sur l'enclume des nuées. De grandes ombres sombres et chaudes passent. Un vent de feu se lève, les nerfs frémissent comme des feuilles, puis le silence retombe. Le ciel continue de couver la foudre. Il y a à cette attente une angoisse voluptueuse. Malgré le malaise qui vous oppresse, on sent passer dans ses veines le feu qui brûle l'univers. L'âme saoule bouillonne dans la fournaise, comme le raisin dans la cuve. Des milliers de germes de vie et de mort la travaillent. Qu'en sortira-t-il? La femme enceinte, elle se tait, le regard perdu en elle. Anxieuse, elle écoute le tressaillement de ses entrailles, et elle pense « Que naîtra-t-il de moi ?» Quelquefois, l'attente est vaine, l'orage se dissipe sans avoir éclaté, et l'on se réveille, la tête lourde, déçu, énervé, écœuré, mais c'est partie remise. Il éclatera, si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain. Plus il aura tardé, plus il sera violent. Le voici, les nuages ont surgi de toutes les retraites de l'être, masses épaisses d'un bleu noir que déchirent les saccades frénétiques des éclairs, il s'avance d'un vol vertigineux et lourd, cernant l'horizon de l'âme, et brusquement rabattant leurs deux ailes sur le ciel étouffé, éteignant la lumière. Heure de folie. Les éléments exaspérés, déchaînés de la cage où les tiennent renfermées les lois qui assurent l'équilibre de l'esprit et l'existence des choses, règnent, informes et colossaux, dans la nuit de la conscience. On sent qu'on agonise. On n'aspire plus à vivre, on n'aspire plus qu'à la fin, à la mort qui délivre. Et soudain, c'est l'éclair. Christophe hurlait de joie. Joie, fureur de joie, soleil qui illumine tout ce qui est et sera, joie divine de créer. Il n'y a de joie que de créer. Il n'y a d'être que ce qui crée. Tous les autres sont des ombres qui flottent sur la terre, étrangers à la vie. Toutes les joies de la vie sont des joies de créer. Amour, génie, action. Flambée de force sortie de l'unique brasier. Ceux-mêmes qui ne peuvent trouver place autour du grand foyer, ambitieux, égoïstes et débauchés stériles, tâchent de se réchauffer à ces reflets décolorés. Créer, dans l'ordre de la chair ou dans l'ordre de l'esprit, c'est sortir de la prison du corps, c'est se ruer dans l'ouragan de la vie, c'est être celui qui est. Créer, c'est tuer la mort. Malheur à l'être stérile qui reste seul et perdu sur la terre, contemplant son corps desséché et la nuit qui est en lui, dont nulle flamme de vie ne sortira jamais. Malheur à l'âme qui ne se sent point féconde, lourde de vie et d'amour, comme un arbre en fleurs au printemps. Le monde peut la combler d'honneur et de bonheur, il couronne un cadavre. Quand Christophe était frappé par le jet de lumière, une décharge électrique lui parcourait le corps. Il tremblait de saisissement. C'était comme si, en pleine mer, en pleine nuit, la terre apparaissait. Ou comme si, passant au milieu d'une foule, il recevait le choc de deux profonds yeux. Souvent, cela survenait après des heures de prostration où son esprit s'agitait dans le vide. Plus souvent encore, à des moments où il pensait à autre chose, causant ou se promenant. S'il était dans la rue, un respect humain l'empêchait de manifester trop bruyamment sa joie. Mais à la maison, rien ne le retenait plus. Il trépignait, il sonnait une fanfare de triomphe. Sa mère la connaissait bien, et elle avait fini par savoir ce que cela signifiait. Elle disait à Christophe qu'il était comme une poule qui vient de pondre. Il était transpercé par l'idée musicale. Tantôt elle avait la forme d'une phrase isolée et complète, plus fréquemment d'une grande nébuleuse enveloppant toute une œuvre. La structure du morceau, ses lignes générales se laissaient deviner au travers d'un voile que lacérait par places des phrases éblouissantes, se détachant de l'ombre avec une netteté sculpturale. Ce n'était qu'un éclair. Parfois il en venait d'autres, coup sur coup. Chacun illuminait d'autres coins de la nuit. Mais d'ordinaire, la force capricieuse, après s'être manifestée une fois, à l'improviste, disparaissait pour plusieurs jours dans ses retraites mystérieuses, en laissant derrière elle un sillon lumineux. Cette jouissance de l'inspiration était si vive que Christophe prit le dégoût du reste. L'artiste d'expérience sait bien que l'inspiration est rare, et que c'est à l'intelligence d'achever l'œuvre de l'intuition. Il met ses idées sous le pressoir, il leur fait rendre jusqu'à la dernière goutte du suc divin qui les gonfle. Et même trop souvent, il les trempe d'eau claire. Christophe était trop jeune et trop sûr de lui pour ne pas mépriser ses moyens. Il faisait le rêve impossible de ne rien produire qui ne fût entièrement spontané. S'il ne s'était aveuglé à plaisir, il n'aurait pas eu de peine à reconnaître l'absurdité de son dessein. Sans doute, il était alors dans une période d'abondance intérieure où il n'y avait nul interstice par où le néant pût se glisser. Tout lui était un prétexte à cette fécondité intarissable. Tout ce que voyaient ses yeux, tout ce qu'il entendait, tout ce que heurtait son être dans sa vie quotidienne, chaque regard, chaque mot, faisait lever dans l'âme des moissons de rêve. Dans le ciel sans bornes de sa pensée coulaient des millions d'étoiles. Et pourtant, même alors, il y avait des moments où tout s'éteignait d'un coup. Et bien que la nuit ne durât point, bien qu'il n'eût guère le temps de souffrir des silences prolongés de l'esprit, il n'était pas sans effroi de cette puissance inconnue qui venait le visiter, le quittait, revenait, disparaissait. Pour combien de temps, cette fois? Reviendrait-elle jamais? Son orgueil repoussait cette pensée et disait « Cette force, c'est moi. Du jour où elle ne sera plus, je ne serai plus, je me tuerai. » Il ne laissait pas de trembler, mais c'était une jouissance de plus. Toutefois, s'il n'y avait aucun danger, pour l'instant, que la source tarie, Christophe pouvait se rendre compte déjà que jamais elle ne suffisait à alimenter une œuvre tout entière. Les idées s'offraient presque toujours à l'état brut. Il fallait les dégager péniblement de la gangue. Et toujours elles se présentaient sans suite, par saccades. Pour les relier entre elles, il fallait y mêler un élément d'intelligence réfléchie et de volonté froide qui forgeait avec elle un être nouveau. Christophe était trop artiste pour ne point le faire, mais il n'en voulait pas convenir. Il mettait de la mauvaise foi à se persuader qu'il se bornait à transcrire son modèle intérieur quand il était forcé de le transformer plus ou moins pour le rendre intelligible. Bien plus, il arrivait qu'il en faussât entièrement le sens. Avec quelque violence que le frappa l'idée musicale, il lui eût été impossible souvent de dire ce qu'elle signifiait. Elle faisait irruption des souterrains de l'être, bien au-delà des frontières où commence la conscience. Et dans cette force toute pure, échappant aux mesures communes, la conscience ne parvenait à reconnaître aucune des préoccupations qui l'agitaient, aucun des sentiments humains qu'elle définit et qu'elle classe. Joie, douleur, ils étaient tous mêlés en une passion unique et inintelligible, parce qu'elle était au-dessus de l'intelligence. Cependant, qu'elle l'a compris ou non, l'intelligence avait besoin de donner un nom à cette force, de la rattacher à une des constructions logiques que l'homme maçonne infatigablement dans la ruche de son cerveau. Ainsi Christophe se convainquait, il voulait se convaincre, que l'obscure puissance qui l'agitait avait un sens précis, et que ce sens s'accordait avec sa volonté. Le libre instinct, jailli de l'inconscience profonde, était, bon gré mal gré, contraint à s'accoupler, sous le joug de la raison, avec des idées claires qui n'avaient aucun rapport avec lui. Telle œuvre n'était ainsi qu'une juxtaposition mensongère d'un de ces grands sujets que l'esprit de Christophe s'était tracé, et de ces forces sauvages qui avaient un tout autre sens que lui-même ignorait. Il allait à tâtons, tête baissée, emporté par les forces contradictoires qui s'entrechoquaient en lui, et jetant au hasard dans des œuvres incohérentes une vie fumeuse et puissante qu'il ne savait pas exprimer, mais qui le pénétrait d'une joie orgueilleuse. La conscience de sa vigueur nouvelle fit qu'il osa regarder en face pour la première fois tout ce qui l'entourait, tout ce qu'on lui avait appris à honorer, tout ce qu'il respectait sans l'avoir discuté. Et il le jugea aussitôt avec une liberté insolente. Le voile se déchira, il vit le mensonge allemand. Toute race, tout art a son hypocrisie. Le monde se nourrit d'un peu de vérité et de beaucoup de mensonges. L'esprit humain est débile. Il s'accommode mal de la vérité pure. Il faut que sa religion, sa morale, sa politique, ses poètes, ses artistes, la lui présentent enveloppée de mensonges. Ces mensonges s'accommodent à l'esprit de chaque race. Ils varient de l'une à l'autre. Ce sont eux qui rendent si difficile au peuple de se comprendre et qui leur rendent si facile de se mépriser mutuellement. La vérité est la même chez tous, mais chaque peuple a son mensonge qu'il nomme son idéalisme. Tout être l'y respire de sa naissance à sa mort. C'est devenu pour lui une condition de vie. Il n'y a que quelques génies qui peuvent s'en dégager, à la suite de crises héroïques où ils se trouvent seuls dans le libre univers de leur pensée. Une occasion insignifiante révéla brusquement à Christophe le mensonge de l'art allemand. S'il ne l'avait point vu jusque-là, ce n'était pas faute de l'avoir toujours eu sous les yeux. Mais il en était trop près. Il manquait de recul. Maintenant, la montagne lui apparaissait parce qu'il s'en était éloigné. Il était à un concert de la Städtische Tonhalle. Le concert avait lieu dans une vaste salle occupée par 10 ou 12 rangées de tables de café, environ 200 ou 300. Au fond, la scène où se trouvait l'orchestre. Autour de Christophe, des officiers sanglés dans leurs longues redingotes sombres, larges faces rasées, rouges, sérieuses et bourgeoises. Des dames qui causaient et riaient avec fracas, étalant un naturel exagéré. De braves petites filles qui souriaient en montrant toutes leurs dents, et de gros hommes enfoncés dans leurs barbes et leurs lunettes, qui ressemblaient à de bonnes araignées aux yeux ronds. Ils se soulevaient à chaque verre pour porter une santé. Ils mettaient à cet acte un respect religieux. Leur visage et leur ton changeaient à ce moment. Ils semblaient dire la messe. Ils s'offraient des libations. Ils buvaient le calice avec un mélange de solennité et de bouffonnerie. La musique se perdait au milieu des conversations et des bruits de vaisselle. Cependant, tout le monde s'efforçait à parler et à manger bas. Le Herr Konzertmeister, grand vieux homme voûté, avec une barbe blanche qui lui pendait comme une queue au menton, et un long nez recourbé, muni de lunettes, avait l'air d'un philologue. Tous ces types étaient depuis longtemps familiers à Christophe. Mais il avait une tendance, ce jour-là, à les voir en caricature. Il y a comme cela des jours où, sans raison apparente, le grotesque des êtres, qui dans la vie ordinaire passe inaperçu, nous saute aux yeux. Le programme d'orchestre comprenait l'ouverture d'Egmont, une valse de Waldteufel, le pèlerinage de Tannhäuser à Rome, l'ouverture des joyeuses commères de Nicolai, la marche religieuse d'Athalie et une fantaisie sur l'étoile du Nord. L'orchestre joua avec correction l'ouverture de Beethoven et la valse avec furie. Pendant le pèlerinage de Tannhäuser, on entendait déboucher des bouteilles. Un gros homme, assis à la table voisine de Christophe, marquait la mesure des joyeuses commères en mimant Falstaff. Une dame âgée et corpulente, en robe bleue de ciel, avec une ceinture blanche, un pince-nez en or sur son nez écrasé, des bras rouges et une vaste taille, chanta d'une voix puissante des Lieder de Schumann et de Brahms. Elle levait les sourcils, faisait les yeux en coulisses, battait les paupières, hochait la tête à droite, à gauche, souriait d'un large sourire figé dans sa face de lune, dépensait une mimique exagérée et qui eût risqué par moments d'évoquer le café-concert sans la majestueuse honnêteté qui resplendissait en elle. Cette mère de famille jouait la petite folle, la jeunesse, la passion. Et la poésie de Schumann prenait vaguement ainsi une odeur fade de nurserie. Le public était dans l'extase. Mais l'attention devint solennelle quand parut la société chorale des hommes allemands du Sud, Süddeutschen Männer Liedertafel, qui tour à tour susurèrent et mugirent des morceaux d'Orphéon pleins de sensibilité. Ils étaient 40 qui chantaient comme 4. On eût dit qu'ils se fussent appliqués à effacer de leur exécution toute trace de style proprement choral. C'était une recherche de petits effets mélodiques, de petites nuances timides et pleurardes, de pianissimo expirant, avec de brusques sursauts tonitruants, comme des coups de grosse caisse. Un manque de plénitude et d'équilibre, un style doucereux. On pensait à Bottom. Laissez-moi faire le lion. Je rugirai aussi doucement qu'une colombe à la béquille. Je rugirai à faire croire que c'est un rossignol. Christophe écoutait depuis le commencement, avec une stupeur croissante. Rien de tout cela n'était nouveau pour lui. Il connaissait ses concerts, cet orchestre, ce public. Mais tout lui paraissait faux brusquement. Tout, jusqu'à ce qu'il aimait le mieux, cette ouverture d'Egmont, dont le désordre pompeux et la correcte agitation le blessaient en cet instant comme un manque de franchise. Sans doute, ce n'était pas Beethoven ni Schumann qui l'entendaient. C'étaient leurs ridicules interprètes. C'était leur public ruminant, dont l'épaisse sottise se répandait autour des œuvres comme une lourde buée. N'importe, il y avait dans les œuvres, même dans les plus belles, quelque chose d'inquiétant que Christophe n'y avait encore jamais senti. Quoi donc? Il n'osait l'analyser, estimant sacrilège de discuter ses maîtres bien-aimés. Mais il avait beau ne pas vouloir voir, il avait vu. Et malgré lui, il continuait de voir. Comme la vergogneuse à de Pise, il regardait entre ses doigts. Il voyait l'art allemand tout nu. Tous, les grands et les sots, étalaient leurs âmes avec une complaisance attendrie. L'émotion débordait, la noblesse morale ruisselait, le cœur se fondait en effusions éperdues. Les écluses étaient lâchées à la redoutable sensibilité germanique. Elles diluaient l'énergie des plus forts, elles noyaient les faibles sous ses nappes grisâtres. C'était une inondation. La pensée allemande dormait au fond. Et quelle pensée, parfois, que celle d'un Mendelssohn, d'un Brahms, d'un Schumann, et, à leur suite, de cette légion de petits auteurs de Lieder emphatiques et pleurnicheurs. Tout en sable, point de roc, une glaise humide et informe. Tout cela était si niais et si enfantin que Christophe ne pouvait croire que le public n'en fût pas frappé. Il regardait autour de lui. Mais il ne vit que des figures béates, convaincues à l'avance de la beauté de ce qu'ils entendaient et du plaisir qu'ils devaient y prendre. Comment se fussent-ils permis de juger par eux-mêmes? Ils étaient pleins de respect pour ces noms consacrés. Que ne respectaient-ils point? Ils étaient respectueux devant leur programme, devant leur verre à boire, devant eux-mêmes. On sentait que mentalement, ils donnaient de l'excellence à tout ce qui, de près ou de loin, se rapportait à eux. Christophe considérait alternativement le public et les œuvres. Les œuvres reflétaient le public. Le public reflétait les œuvres comme une boule de jardin. Christophe sentait le rire le gagner et il faisait des grimaces. Il se contenait pourtant. Mais quand les hommes du Sud vinrent chanter avec solennité l'aveu rougissant d'une jeune fille amoureuse, Christophe n'y tint plus. Il éclata de rire. Des chutes indignées s'élevèrent. Ses voisins le regardèrent avec effarement. Ses bonnes figures scandalisées le mirent en joie. Il rit de plus belle. Il rit, il pleurait de rire. Pour le coup, on se fâcha. On cria « À la porte !» Il se leva et partit en haussant les épaules, le dos secoué par un accès de fou rire. Cette sortie fit scandale. Ce fut le début des hostilités entre Christophe et sa ville. À la suite de cette épreuve, Christophe, rentré chez lui, s'avisa de relire les œuvres des musiciens consacrés. Il fut consterné en s'apercevant que certains des maîtres qu'il aimait le mieux avaient menti. Il s'efforça d'en douter, de croire qu'il se trompait. Mais non, il n'y avait pas moyen. Il était saisi de la somme de médiocrité et de mensonges qui constitue le trésor artistique d'un grand peuple. Combien peu de pages résistaient à l'examen? Dès lors, ce ne fut plus qu'avec un battement de cœur qu'il aborda la lecture d'autres œuvres qui lui étaient chères. Hélas, il était comme ensorcelé, partout la même déconvenue. À l'égard de certains maîtres, ce fut un déchirement de cœur. C'était comme s'il perdait un ami bien-aimé, comme s'il s'apercevait soudain que cet ami en qui il avait mis sa confiance le trompait depuis des années. Il en pleurait. La nuit, il ne dormait plus. Il continuait de se tourmenter. Il s'accusait lui-même. Est-ce qu'il ne savait plus juger? Est-ce qu'il était devenu tout à fait idiot? Non, non, plus que jamais, il voyait la beauté rayonnante du jour, il sentait l'abondance généreuse de la vie, son cœur ne le trompait point. Longtemps encore, il n'osa pas toucher à ceux qui étaient pour lui les meilleurs, les plus purs, le saint des saints. Il tremblait de porter atteinte à la foi qu'il avait en eux. Mais comment résister à l'impitoyable instinct d'une âme véridique qui veut aller jusqu'au bout et voir les choses comme elles sont, quoi qu'on doive en souffrir? Il ouvrit donc les œuvres sacrées, il fit donner la dernière réserve, la garde impériale. Dès les premiers regards, il vit qu'elle n'était pas plus immaculée que les autres. Il n'eut pas le courage de continuer. À certains moments, il s'arrêtait, il fermait le livre. Comme le fils de Noé, il jetait le manteau sur la nullité de son père. Après, il restait abattu au milieu de ses ruines. Il eût mieux aimé perdre un bras que ses saintes illusions. Son cœur était en deuil. Mais une telle sève était en lui que sa confiance dans l'art n'en fut pas ébranlée. Avec la présomption naïve du jeune homme, il recommençait la vie comme si personne ne l'avait vécu avant lui. Dans la griserie de sa force neuve, il sentait, non sans raison peut-être, qu'à peu d'exceptions près, il n'y a aucun rapport entre les passions vivantes et l'expression que l'art en a donnée. Mais il se trompait en pensant que lui-même était plus heureux ou plus vrai quand il les exprimait. Comme il était plein de ses passions, il lui était aisé de les retrouver au travers de ce qu'il écrivait. Mais personne autre que lui ne les eût reconnus sous le vocabulaire imparfait dont il les désignait. Beaucoup des artistes qu'il condamnait étaient dans le même cas. Ils avaient eu et traduit des sentiments profonds, mais le secret de leur langue était mort avec eux. Christophe n'était pas psychologue. Il ne s'embarrassait pas de toutes ses raisons. Ce qui était mort pour lui l'avait toujours été. Il révisait ses jugements sur le passé avec l'injustice féroce et assurée de la jeunesse. Il mettait à nu les plus nobles âmes, sans pitié pour leur ridicule. C'était la mélancolie cossue, la fantaisie distinguée, le néant bien pensant de Mendelssohn. C'était la verroterie et le clinquant de Weber, sa sécheresse de cœur, son émotion cérébrale. C'était Liszt, père noble, écuyer de cirque, néoclassique et forain, mélange à doses égales de noblesse réelle et de noblesse fausse, d'idéalisme serein et de virtuosité dégoûtante. C'était Schubert, englouti sous sa sensibilité, comme sous des kilomètres d'eau transparente et fade. Les vieux des âges héroïques, les demi-dieux, les prophètes, les pères de l'Église, n'étaient pas épargnés. Même le grand Sébastien, l'homme trois fois séculaire, qui portait en lui le passé et l'avenir, Bach, n'était pas pur de tout mensonge, de toute niaiserie de la mode, de tout bavardage d'école. Cet homme, qui avait vu Dieu, semblait parfois à Christophe d'une religion insipide et sucrée, style jésuite, rococo. On trouvait dans ses cantates des airs de langueur amoureuse et dévote, des dialogues de l'âme qui coquette avec Jésus. Christophe en était écœuré. Il croyait voir des chérubins joufflus faisant des rondes jambes. Puis il avait le sentiment que le génial cantor écrivait dans sa chambre close. Cela sentait le renfermer. Il n'y avait pas dans sa musique cet air fort du dehors qui souffle chez d'autres, moins grands musiciens peut-être, mais plus grands hommes. Plus hommes, tels Beethoven ou Handel. Ce qui le blessait aussi chez les classiques, c'était leur manque de liberté. Presque tout dans leurs œuvres était construit. Tantôt une émotion était amplifiée par tous les lieux communs de la rhétorique musicale, tantôt c'était un simple rythme, un dessin ornemental, répété, retourné, combiné en tous sens d'une façon mécanique. Ces constructions symétriques et rabâcheuses, sonates et symphonies, exaspéraient Christophe, peu sensible en ce moment à la beauté de l'ordre, des plans vastes et bien conçus. Elle lui semblait l'œuvre de maçon plutôt que de musicien. Il ne faudrait pas croire qu'il en fût moins sévère pour les romantiques. Chose curieuse, il n'y avait pas de musiciens qui l'irritassent davantage que ceux qui avaient prétendu être le plus libre, le plus spontané, le moins constructeur. Ceux qui, comme Schumann, avaient versé goutte à goutte dans leurs innombrables petites œuvres leur vie tout entière. il s'acharnait contre eux avec d'autant plus de colère qu'il reconnaissait en eux son âme adolescente et toutes les niaiseries qu'il s'était juré d'en arracher. Certes, le candide Schumann ne pouvait être taxé de fausseté. Il ne disait presque jamais rien qu'il n'eût vraiment senti. Mais justement, son exemple amenait Christophe à comprendre que la pire fausseté de l'art allemand n'était pas quand ces artistes voulaient exprimer des sentiments qu'ils ne sentaient point, mais bien plutôt quand ils voulaient exprimer des sentiments qu'ils sentaient, et qui étaient faux. La musique est un miroir implacable de l'âme. Plus un musicien allemand est naïf et de bonne foi, plus il montre les faiblesses de l'âme allemande, son fond incertain, sa sensibilité molle, son manque de franchise, son idéalisme un peu sournois, son incapacité à se voir soi-même, à oser se voir en face. Ce faux idéalisme était la plaie, même des plus grands, de Wagner. En relisant ses œuvres, Christophe grinçait les dents. Lohengrin lui paraissait d'un mensonge à hurler. Il haïssait cette chevalerie de pacotille, cette bandieuserie hypocrite, ce héros sans peur et sans cœur, incarnation d'une vertu égoïste et froide, qui s'admire et qui s'aime avec prédilection. Il le connaissait trop, il l'avait vu dans la réalité. Ce type de pharisien allemand bellâtre, impeccable et dur, en adoration devant sa propre image, à la divinité de laquelle il n'a point de peine à sacrifier les autres. Le Hollandais volant l'accablait de sa sentimentalité massive et de son morne ennui. Les barbares décadents de la tétralogie étaient en amour d'une fadeur écœurante. Siegmund, enlevant sa sœur, ténorisait une romance de salon. Siegfried et Brunhilde, en bons mariés allemands, dans le Götterdämmerung, étalaient aux yeux l'un de l'autre, et surtout du public, leur passion conjugale pompeuse et bavarde. Tous les genres de mensonges s'étaient donné rendez-vous dans ses œuvres. Faux idéalisme, faux christianisme, faux gothisme, faux légendaire, faux divin, faux humain. Jamais convention plus énorme ne s'était affichée que dans ce théâtre qui prétendait renverser toutes les conventions. Ni les yeux, ni l'esprit, ni le cœur n'en pouvaient être dupes un instant. Pour qu'ils le fussent, il fallait qu'ils voulussent l'être. Ils le voulaient. L'Allemagne se délectait de cet art vieillot et enfantin, art de brutes déchaînées et de petites filles mystiques et gnangnans. Et Christophe avait beau faire. Dès qu'il entendait cette musique, il était repris comme les autres, plus que les autres, par le torrent et par la volonté diabolique de l'homme qu'il avait déchaîné. Il riait et il tremblait, et il avait les joues allumées. Il sentait passer en lui des chevauchées d'armée. Et il pensait que tout était permis à ceux qui portaient ces ouragans. Quel cri de joie il poussait lorsque, dans les œuvres sacrées qu'il ne feuilletait plus qu'en tremblant, il retrouvait son émotion d'autrefois, toujours aussi ardente, sans que rien vînt ternir la pureté de ce qu'il aimait. C'était de glorieuses épaves qu'il sauvait du naufrage. Quel bonheur! Il lui semblait qu'il sauvait une partie de lui-même. Et n'était-ce point lui? Ces grands Allemands contre lesquels il s'acharnait, n'étaient-ils pas son sang, sa chair, son être le plus précieux? Ils n'étaient si sévères pour eux que parce qu'ils l'étaient pour lui. Qui les aimait mieux que lui? Qui sentait plus que lui la bonté de Schubert, l'innocence de Haydn, la tendresse de Mozart, le grand cœur héroïque de Beethoven? Qui s'était réfugié plus religieusement dans le bruissement des forêts de Weber et dans les grandes ombres des cathédrales de Jean-Sébastien, dressant sur le ciel gris du nord, au-dessus de la plaine allemande, leurs montagnes de pierre et leurs tours gigantesques aux flèches ajourées? Mais ils souffraient de leurs mensonges, et ils ne pouvaient les oublier. Ils les attribuaient à la race et leur grandeur à eux-mêmes. Il avait tort. Grandeur et faiblesse appartiennent également à la race, dont la pensée puissante et trouble roule comme le plus large fleuve de musique et de poésie, où l'Europe vienne boire. Et chez quel autre peuple eût-il trouvé la pureté naïve qui lui permettait en ce moment de le condamner si durement? Il ne s'en doutait point. Avec l'ingratitude d'un enfant gâté, il retournait contre sa mère les armes qu'il en avait reçues. Plus tard, il devait sentir tout ce qu'il lui devait et combien elle lui était chère. mais il était dans une période de réaction aveugle contre les idoles de son enfance. Il s'en voulait, et il leur en voulait, d'avoir cru en elle avec un abandon passionné. Et il était bien qu'il en fût ainsi. Il y a un âge de la vie où il faut oser être injuste, où il faut oser faire table rase de toutes les admirations et de tous les respects appris, et tout nier, mensonge et vérité, tout ce que l'on n'a pas reconnu vrai par soi-même. Par toute son éducation, par tout ce qu'il voit et entend autour de lui, l'enfant absorbe une telle somme de mensonges et de sottises mélangées aux vérités essentielles de la vie que le premier devoir de l'adolescent qui veut être un homme sain est de tout dégorger. Christophe passait par cette crise de robuste dégoût. Son instinct le poussait à éliminer de son être les éléments indigestes qui l'encombraient. Avant tout, cette écœurante sensibilité qui dégoûtait de l'âme allemande comme d'un terrain humide et sentant le moisi. De la lumière, de la lumière! Un air rude et sec qui balaya les miasmes du marais, les fades relents de ses leaders, de ses Lichen, de ses Litlein, aussi nombreux que les gouttes de pluie où se déverse intarissablement le Gemüt germanique. Ces innombrables Sehnsucht, désirs, Heimweh, nostalgie, Aufschwung, Essor, Frage, demande, Warum, pourquoi, An den Mond, à la lune, An die Sterne, aux étoiles, An die Nachtingall, au rossignol, An den Frühling, au printemps, An den Sonnenschein, à la clarté du soleil. Ces Frühlingslied, chant du printemps, Frühlingslust, plaisir du printemps, Frühlingsgruß, salut du printemps, Frühlingsfahrt, voyage de printemps, Frühlingsnacht, nuit de printemps, Frühlingsbotschaft, message de printemps. C'est Stimme der Liebe, voix de l'amour, Sprache der Liebe, parole de l'amour, Trauer der Liebe, tristesse de l'amour, Geist der Liebe, esprit de l'amour, Fülle der Liebe, plénitude de l'amour. C'est Blumenlied, chant des fleurs, Blumenbrief, lettre des fleurs, Blumengruß, salut des fleurs, c'est Herzeleid, peine de cœur, mein Herz ist schwer, mon cœur est lourd, mein Herz ist betrübt, mon cœur est trouble, mein Aug ist trübe, mon œil est trouble. Ces dialogues candides et nigauds avec la Roselein, petite rose, avec le ruisseau, avec la tourterelle, avec l'hirondelle, ces questions saugrenues, si l'églantier devrait être sans épines, si c'est avec un vieil époux que l'hirondelle a fait son nid, ou si elle vient de se fiancer depuis un peu de temps, tout ce déluge de tendresse fade, d'émotions fades, de mélancolie fade, de poésie fade. Que de belles choses profanées, de hauts sentiments usés à tout propos et sans propos, car le pire était l'inutilité de tout cela. C'était une habitude de déshabiller son cœur en public, une propension affectueuse et niaise à se confier bruyamment. Rien à dire et toujours parler. Ce bavardage ne finirait-il jamais? Holà, silence aux grenouilles du marais! Nulle part Christophe ne sentait plus crûment le mensonge que dans l'expression de l'amour, car il était ici plus à même de le comparer avec la vérité. Cette convention des chants d'amour, larmoyants et corrects, ne répondait à rien ni des désirs de l'homme ni du cœur féminin. Cependant, les gens qui avaient écrit cela avaient dû aimer au moins une fois dans leur vie. Était-il possible qu'ils eussent aimé ainsi? Non, non. Ils avaient menti, menti comme toujours. Ils s'étaient menti à eux-mêmes. Ils avaient voulu s'idéaliser. Idéaliser, c'est-à-dire avoir peur de regarder la vie en face, être incapable de voir les choses comme elles sont. Partout la même timidité, le manque de franchise virile, le même enthousiasme à froid, la solennité pompeuse et théâtrale, dans le patriotisme, dans la boisson, dans la religion. Les Trinklieder, chants à boire, étaient des prosopopées au vin ou à la coupe. Du herrlich Glas, toi noble verre. La foi qui devait jaillir de l'âme comme un flot imprévu était un article de fabrique, une denrée. Les chants patriotiques semblaient faits pour des troupeaux de moutons bêlant en mesure. Hurlez donc! Quoi? Est-ce que vous continuerez à mentir? à idéaliser jusque dans la soûlerie, jusque dans la tuerie, jusque dans la folie. Christophe en était arrivé à prendre en haine l'idéalisme. Il préférait à ce mensonge la brutalité franche. Au fond, il était plus idéaliste que les autres, et il ne devait pas avoir de pires ennemis que ces réalistes brutaux qu'il croyait préférer. Sa passion l'aveuglait. Il se sentait glacé par le brouillard, le mensonge anémique, les idées fantômes sans soleil. De toutes les forces de son être, il aspirait au soleil. Dans son mépris juvénile pour l'hypocrisie qui l'entourait, ou pour ce qu'il nommait tel, il ne voyait pas la haute sagesse pratique de la race, qui s'était bâti peu à peu son grandiose idéalisme pour dompter ses instincts sauvages ou pour en tirer parti. Ce ne sont pas des raisons arbitraires, des règles morales et religieuses, ce ne sont pas des législateurs et des hommes d'État, des prêtres et des philosophes, qui transforment les âmes des races et leur imposent une nouvelle nature. C'est l'œuvre des siècles de malheurs et d'épreuves. Ils forgent pour la vie les peuples qui veulent vivre. Cependant, Christophe composait, et ses compositions n'étaient pas exemptes des défauts qu'il reprochait aux autres, car la création était chez lui un besoin irrésistible qui ne se soumettait pas aux règles que son intelligence édictait. On ne crée pas par raison, on crée par nécessité. Puis il ne suffit pas d'avoir reconnu le mensonge et l'emphase inhérent à la plupart des sentiments pour n'y plus retomber. Il y faut de longs et pénibles efforts, rien de plus difficile que d'être tout à fait vrai dans la société moderne, avec l'héritage écrasant d'habitudes paresseuses transmis par les générations. Cela est surtout malaisé aux gens ou aux peuples qui ont la manie indiscrète de laisser parler leur cœur sans repos quand ils n'auraient rien de mieux à faire, le plus souvent, que de se taire. Le cœur de Christophe était bien allemand en cela. Il n'avait pas encore appris la vertu de se taire. D'ailleurs, elle n'était pas de son âge. Il tenait de son père le besoin de parler et de parler bruyamment. Il en avait conscience, et il luttait contre. Mais cette lutte paralysait une partie de ses forces. Il en soutenait une autre contre l'hérédité non moins fâcheuse qu'il tenait de son grand-père, une difficulté extrême à s'exprimer exactement. Il était fils de virtuose. Il sentait le dangereux attrait de la virtuosité. Plaisir physique, plaisir d'adresse, d'agilité, d'activité musculaire, plaisir de vaincre, d'éblouir, de subjuguer par sa personne le public aux mille têtes. Plaisir bien excusable, presque innocent chez un jeune homme, mais néanmoins mortel pour l'art et pour l'âme. Christophe le connaissait, il l'avait dans le sang. Il le méprisait, mais tout de même il y cédait. Ainsi, tiraillé par les instincts de sa race et ceux de son génie, alourdi par le fardeau d'un passé parasite qui s'incrustait à lui et dont il ne parvenait pas à se défaire, il avançait en trébuchant. Et il était beaucoup plus près qu'il ne pensait de ce qu'il proscrivait. Toutes ses œuvres d'alors étaient un mélange de vérité et de boursouflure, de vigueur lucide et de bêtises bredouillantes. Ce n'était que par instant que sa personnalité arrivait à percer l'enveloppe de ses personnalités mortes qui ligotaient ses mouvements. Il était seul, il n'avait aucun guide qui l'aidât à sortir du bourbier. Quand il se croyait dehors, il s'y enfonçait de plus belle. Il allait à l'aveuglette, gaspillant son temps et ses forces en essais malheureux. Nulle expérience ne lui était épargnée. Et dans le désordre de cette agitation créatrice, il ne se rendait pas compte de ce qui valait le mieux parmi ce qu'il créait. Il s'empêtrait dans des projets absurdes, des poèmes symphoniques qui avaient des prétentions philosophiques et des dimensions monstrueuses. Son esprit était trop sincère pour pouvoir s'y lier longtemps. Et il les abandonnait avec dégoût avant d'en avoir esquissé une seule partie. Ou bien il prétendait traduire dans des ouvertures les œuvres de poésie les plus inaccessibles. Alors il pataugeait dans un domaine qui n'était pas le sien. Quand il se traçait lui-même ses scénarios, car il ne doutait de rien, c'était de pures âneries, et quand il s'attaquait aux grandes œuvres de Goethe, de Kleist, de Hebel ou de Shakespeare, il les comprenait tout de travers. Non par manque d'intelligence, mais d'esprit critique. Il ne savait pas comprendre les autres, il était trop préoccupé de lui-même. Il se retrouvait partout, avec son âme naïve et boursouflée. À côté de ces monstres qui n'étaient point faits pour vivre, il écrivait une quantité de petites œuvres qui étaient l'expression immédiate d'émotions passagères, les plus éternelles de toutes, des pensées musicales, des leaders. Ici, comme ailleurs, il était en réaction passionnée contre les habitudes courantes. Il reprenait les poésies célèbres, déjà traitées en musique, et il avait l'impertinence de vouloir faire autrement et plus vrai que Schumann et Schubert. Tantôt, il tâchait de rendre aux figures poétiques de Goethe, à Mignon, aux harpistes de Wilhelm Meister, leur caractère individuel, précis et trouble. Tantôt, il s'attaquait à des leaders amoureux que la faiblesse des artistes et la faveur du public, tacitement d'accord, s'étaient habitués à revêtir de sentimentalité doucereuse, et il les déshabillait. Il leur soufflait une âpreté fauve et sensuelle. En un mot, il prétendait faire vivre des passions et des êtres pour eux-mêmes, et non pour servir de jouet à des familles allemandes, en quête d'attendrissement facile, le dimanche, attablé à quelque Biergarten. Mais d'ordinaire, il trouvait les poètes trop littéraires, et il cherchait de préférence les textes les plus simples. De vieux leaders, de vieilles chansons spirituelles, qu'il avait lues dans un manuel d'édification. Il se gardait bien de leur conserver leur caractère de chorale. Il les traitait de façon audacieusement laïque et vivante. Ou bien c'étaient des proverbes, parfois même des mots entendus en passant, des bribes de dialogues populaires, des réflexions d'enfants, des paroles gauches et prosaïques, où transparaissait le sentiment tout pur. Là, il était à l'aise, et il atteignait à une profondeur dont il ne se doutait pas. Bonnes ou mauvaises, le plus souvent mauvaises, l'ensemble de ses œuvres débordait de vie. Tout n'en était pas neuf, tant s'en fallait. Christophe était maintes fois banal, par sincérité même. Il lui arrivait de répéter des formes déjà employées, parce qu'elles rendaient exactement sa pensée, parce qu'il sentait ainsi et non pas autrement. Pour rien au monde, il n'eût cherché à être original. Il lui semblait qu'il fallait être bien médiocre pour s'embarrasser d'un pareil souci. Il cherchait à dire ce qu'il sentait, sans se préoccuper si cela avait été ou non dit avant lui. Il avait l'orgueil de croire que c'était encore la meilleure façon d'être original, et que Jean-Christophe n'avait été et ne serait jamais qu'une fois. Avec la magnifique impudence de la jeunesse, rien ne lui semblait fait encore, et tout lui semblait à faire ou à refaire. Le sentiment de cette plénitude intérieure, d'une vie illimitée, le jetait dans un état de bonheur exubérant et indiscret. Jubilation de tous les instants. Elle n'avait pas besoin de la joie, elle pouvait s'accommoder de la tristesse. Sa source était dans sa force, mère de tout bonheur et de toute vertu. Vivre, vivre trop. Qui ne sent point en lui cette ivresse de la force, cette jubilation de vivre, fût-ce au fond du malheur, n'est pas un artiste. C'est la pierre de touche. La vraie grandeur se reconnaît au pouvoir de jubiler dans la joie et la peine. Un Mendelssohn ou un Brahms, dieu des brouillards d'octobre et de la petite pluie, n'ont jamais connu ce pouvoir divin. Christophe le possédait, et il faisait montre de sa joie avec une naïveté imprudente. Il n'y voyait point malice, il ne demandait qu'à la partager avec les autres. Il ne s'apercevait pas que cette joie est blessante pour la plupart des gens qui ne la possèdent pas. Au reste, il ne s'inquiétait point de plaire ou de déplaire. Il était sûr de lui, et rien ne lui paraissait plus simple que de communiquer aux autres sa conviction. Il comparait ses richesses à la pauvreté générale des fabricants de notes, et il pensait qu'il lui serait bien facile de faire reconnaître sa supériorité. Trop facile. Il n'avait qu'à se montrer. Il se montra. On l'attendait. Christophe n'avait pas fait mystère de ses sentiments. Depuis qu'il avait pris conscience du pharisaïsme allemand qui ne veut pas voir les choses comme elles sont, il s'était fait une loi de manifester une sincérité absolue, incessante, intransigeante, sans égard à aucune considération d'œuvre ou de personne. Et comme il ne pouvait rien faire sans le pousser à l'extrême, il disait des énormités et scandalisait les gens. Il était d'une prodigieuse naïveté. Il confiait à tout venant ce qu'il pensait de l'art allemand, avec la satisfaction d'un homme qui ne veut pas garder pour lui des découvertes inappréciables. Il n'imaginait pas qu'on pût lui en savoir mauvais gré. quand il venait de reconnaître l'ânerie d'une œuvre consacrée, tout plein de son sujet, il se hâtait d'en faire part à ceux qu'il rencontrait, musiciens ou amateurs. Il énonçait les jugements les plus saugrenus avec une figure rayonnante. D'abord, on ne le prit pas au sérieux. On rit de ses boutades. Mais on ne tarda pas à trouver qu'il y revenait trop souvent, avec une insistance de mauvais goût. Il devint évident que Christophe croyait à ses paradoxes. Ils parurent moins plaisants. Il était compromettant. Il manifestait en plein concert sa bruyante ironie, où il exprimait son dédain pour les maîtres glorieux. Tout se colportait dans la petite ville. Aucun mot de Christophe n'était perdu. On lui en voulait déjà de sa conduite de l'an passé. On n'avait pas oublié la façon scandaleuse dont il s'était affiché avec Ada. Lui-même ne s'en souvenait plus. Les jours effaçaient les jours. Il était loin maintenant de ce qu'il avait été. Mais d'autres s'en souvenaient pour lui. Ceux dont la fonction sociale, dans toutes les petites villes, est de prendre scrupuleusement note de toutes les fautes, de toutes les tares, de tous les événements tristes, laids, désobligeants, qui concernent leurs voisins, afin que rien n'en soit perdu. Les nouvelles extravagances de Christophe vinrent trouver place à côté des anciennes, dans le registre à son nom. Les unes éclairaient les autres. Au ressentiment de la morale offensée, s'ajoutèrent ceux du bon goût scandalisé. Les plus indulgents disaient de lui « il cherche à se singulariser ». La plupart affirmaient « total ferructe, absolument fou ». Une opinion plus dangereuse encore commençait à se répandre. Son illustre origine en assurait le succès. On se contait qu'au château, où Christophe continuait de remplir ses fonctions officielles, il avait eu le mauvais goût, parlant au grand-duc en personne, de s'exprimer avec une indécence révoltante sur le compte de maître vénéré. Il avait, disait-on, appelé l'Élias de Mendelssohn des patenôtres de clergémans hypocrites, et traité certains leaders de Schumann de musique de backfish, et cela quand les augustes princes venaient d'affirmer leur préférence pour ses œuvres. Le grand-duc avait mis fin à ses impertinences en disant sèchement « On douterait parfois, monsieur, à vous entendre, que vous soyez allemand ». Ce mot vengeur, tombé de si haut, ne manqua point de rouler très bas, et tous ceux qui croyaient avoir des sujets de ressentiment contre Christophe, soit à cause de ses succès, soit pour quelque autre raison plus personnelle, ne manquèrent point de rappeler qu'en effet, il n'était pas un pur Allemand. Sa famille paternelle était, on s'en souvient, originaire des Flandres. Rien de surprenant à ce que cet immigré dénigrât les gloires nationales. Cette constatation expliquait tout. Et l'amour-propre germanique y trouvait des raisons de s'estimer davantage, en même temps que de mépriser son adversaire.